remue-ménage. Remue-ménage, c'est Ondes Femmes sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue-ménage sur Radio Zone 93,8. Bonsoir et bienvenue dans Ondes Femmes Radio Zone 93.8 et tout de suite c'est remue-ménage de 17h à 18h30. Eh bien aujourd'hui pour notre programme nous avons quelques surprises puisque nous espérions dialoguer avec la metteuse en espace de la nouvelle exposition du musée d'ethnographie annexe de Conches à Genève, à savoir Anne Grossenbacher. Et puis il y a eu, je crois, mauvaise compréhension. Anne n'est pas au rendez-vous, alors nous espérerons beaucoup la retrouver pour une autre émission, mais je vous parlerai quand même en quelques mots de cette nouvelle exposition qui a pour titre « La beauté du reste ». Par contre, nous sommes absolument sûrs que la semaine prochaine, nous recevrons dans notre émission « Remue-ménage de femmes » Evelyne Hasler. Evelyne Hasler, écrivaine saint-galloise qui vient de publier en français, parce que ce livre a déjà été publié en allemand il y a déjà quelque temps, l'histoire d'Emily Kemping-Spiri, avec comme titre du livre « La femme aux ailes de cire », publié aux éditions Zoé. Et donc, Evelyne Hasler sera avec nous en direct la semaine prochaine, dans le cadre de nos émissions avec nos amis de l'Inédit, Annette Zimmermann en l'occurrence. Voilà, et pour faire le gros de l'émission, histoire de remplacer, je m'excuse Anne, mais histoire de remplacer la présence d'Anne, eh bien je vous propose une première édition d'une série d'émissions sur le thème « La religion par les femmes » en m'inspirant d'un livre magnifique qui a été imaginé, parce que ce n'est pas elles qui l'ont écrit en entier, par Nancy Auerfolk et Rita Gross, deux femmes qui ont réuni toutes sortes d'auteurs qui ont écrit sur les femmes et la religion, ou la religion par les femmes. Je vous en parlerai plus en détail et aujourd'hui je vous lirai deux portraits de femmes exceptionnelles qu'ont rencontré Nancy Auerfolk et Rita McGross et par lesquelles commence leur livre. Voilà, c'est le programme d'aujourd'hui. Et tout de suite, un peu de soleil, toujours quand il fait très gris, quand le plafond est très bas, on choisit le Brésil pour te faire un petit peu chaud au cœur. Seulement si c'est à deux, c'est le titre de la chanson d'Elba Ramalho, So se fosse a dois. Vermelho.
liberdade, um mar de verdade, só se for a dois.
C'était Elba Ramalho dans Rome Ménage, Onde Femme Radio Zone 93.8. Alors, juste avant de commencer à vous parler de la beauté du reste, le sujet dont nous devions parler aujourd'hui, il y a autre chose dont voudrais-je vous parler parce qu'il faut que je vous en parle vite, histoire de vous donner la possibilité de réaliser ce pourquoi je vais vous parler. Il est 5h05, 17h05, au moment où je vous parle en direct. Si vous entendez cela jeudi matin, c'est trop tard, oubliez. Mais si vous entendez cela encore ce soir en direct, eh bien... À 19h ce soir à Fribourg, à la Halle 2C, qui est la salle de théâtre à l'heure actuelle à Fribourg, puisque Fribourg n'a pas de théâtre en ce moment, grâce à toute une série de gens qui se débattent comme des fous pour arriver à mettre sur pied une série de spectacles de théâtre. Eh bien, la Halle 2C accueille ce soir un spectacle qui s'appelle Scarpette Rosse, les souliers rouges, qui est présenté par la compagnie Ruota Libera. Et Ruota Libera, ce sont à l'heure actuelle deux femmes, Tiziana Lucatini et Marcella Terzini. Et ces deux femmes nous racontent une histoire magnifique par l'histoire des souliers rouges, une histoire magnifique mais une histoire très très dure. C'est la nuit qui va tomber, c'est l'heure à laquelle arrive la peur pour les enfants, mais quelques-uns ont plus peur que d'autres. Il y a des lieux au monde où être enfant, pauvre et sans maison est un crime et qui est puni par les escadrons de la mort. Alors, où sommes-nous? Vous l'avez sûrement deviné. Dans ce spectacle, les souliers rouges, nous sommes au Brésil et c'est des enfants de la rue qu'évoque le spectacle. Alors, la scène se passe dans une banlieue de n'importe quelle grande ville du Brésil. C'est l'histoire de deux gamines, Favilia et Mamadeira, qui sont jouées par nos deux actrices et avec une finesse, une justesse qui fait que à aucun moment nous ne sommes gênés par le fait que Tiziana et Marcella sont des adultes et qu'elles jouent des gamines. Et donc ces deux gamines, eh bien, elles sont là sur une place dans la rue au moment où les gamins craignent le plus puisque c'est la nuit et parce que c'est ceux-là qui arrivent et qui raflent toutes les plages, les rues, les baraques et qui tuent les enfants. Mais cette nuit-là, c'est une nuit spéciale parce que peut-être le salut contre ces escadrons de la mort viendra d'une paire de souliers rouges. Alors ce spectacle, je l'ai vu hier soir à la Halle 2C à Fribourg. C'est un spectacle magnifique dans la mesure où il a la volonté de parler aux enfants d'abord de ce problème de l'assassinat d'autres enfants ailleurs dans le monde. Et comme me disait Tiziana ce matin, lorsque les adultes tuent leurs propres enfants, c'est que vraiment le monde est en train de s'écrouler. Et il faut absolument que l'on parle de cela à nos enfants pour qu'ils sachent ce qui se passe ailleurs. Donc l'idée est de parler aux enfants d'abord, avec un spectacle dont les phrases sont très sobres, où c'est vraiment le langage de la rue entre ces gamines, avec toute une image qui est donnée par le conte, parce que les souliers rouges, bien sûr, c'est toute une histoire, un conte magnifique que se racontent nos deux gamines dans la rue. Et c'est aussi, bien sûr, la dénonciation de l'horreur par des voix off qui sont des sujets de télévision enregistrés, et c'est l'intervieweur qui entend, qui enregistre la voix de celui qui fait partie de ces escadrons de la mort et qui explique sa rage et pourquoi il faut nettoyer les rues de ces gamins. Très très beau spectacle, très sobre, avec un langage qui, à l'origine, donc le spectacle est créé en italien, puisque la compagnie Ruota Libera est une compagnie italienne, mais Tiziana Lucatini et Marcella Terzini ont traduit le texte, le présentent à l'heure actuelle en français, et je crois que tout le monde peut, effectivement, dès l'âge de 8 ans, c'est l'âge que proposent Tiziana et Marcella pour les enfants, pour découvrir ce spectacle qui utilise la poésie, la métaphore pour arriver à aborder ce sujet tellement difficile qui est l'assassinat des enfants dans la rue. Voilà, alors ce spectacle a reçu un prix en Italie et il a été surtout conçu avec l'aide d'organismes comme Amnesty International, comme le Mouvement National pour les Enfants, les Gamins et les Gamines de la Rue au Brésil, par l'UNICEF, par la FAO et par la Fondation Internationale Lelio Basso, qui est une fondation italienne. Alors je crois que vraiment, c'est un spectacle qui vaut la peine de se déplacer jusqu'à Fribourg. Par la route, c'est 1h15. Par le train, et ça vaudrait bien mieux, par les temps qui courent, c'est 1h20. C'est très près. Vraiment, ça vaut la peine de vous déplacer à la Halle de C à Fribourg, 19h, ce soir mercredi. Je rappelle, si vous m'entendez demain jeudi, trop tard. Ce soir mercredi 24 novembre. Pour voir le spectacle Les Souliers Rouges, présenté par la compagnie Ruota Libera. Juste une petite explication technique. La Halle de C, quand vous arrivez à la gare de Fribourg, eh bien, vous prenez la rue qui longe les rails, qui part directement devant la gare. Vous faites 500 mètres à pied. Ensuite, vous passez sous le pont des chemins de fer et à votre droite, tout de suite à votre droite, après le pont des chemins de fer. C'est la Halle de C. Voilà. Alors, je vous le conseille vivement. N'hésitez pas. Fribourg. Alors maintenant, je vais vous parler de ce dont nous aurions dû parler, mais je ne vais d'ailleurs pas vous en parler du tout, parce que j'espère bien que nous recevrons encore Anne Grossenbacher très bientôt. Mais peut-être ça vaut la peine que vous alliez voir l'exposition en attendant d'entendre Anne s'exprimer. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, cette exposition, elle a été mise sur pied à l'annexe du musée d'ethnographie à Conches par Bernard Créta. Bernard Créta, qui est le conservateur responsable du musée et qui a eu envie de monter une exposition sur le thème « La beauté du reste, confession d'un conservateur du musée ». Alors, je vous lis ses propos qui introduisent l'exposition. « Ma démarche sur la Suisse et les Alpes, que je revendique comme essai à la première personne, pour bien montrer qu'elle ne constitue qu'une analyse parmi d'autres possibles, a moins d'originalité qu'il n'y paraît. » Elle doit tout à quelques grands auteurs qui ont été les maîtres à penser de notre génération. Parmi les écrits célèbres des grands auteurs, qui ont été les maîtres à penser, eh bien, un texte m'a particulièrement servi de guide méthodologique, c'est l'énoncé sur les liens du bricolage et du mythe dû à notre maître en anthropologie, Claude Lévi-Strauss. Et c'est à partir de ce texte que j'ai, pour ma part, essayé de comprendre comment le bricolage des restes de la culture montagnarde a permis l'élaboration du mythe suisse des Alpes. Alors, l'exposition de l'annexe de Conches, La beauté du reste, confession d'un conservateur de musée, met en scène les procédés du bricolage culturel permettant de comprendre l'invention de l'idylle alpestre, mon essai de contre-idylle et le n'importe quoi, entre guillemets, des néo-bricolages actuels. Alors, je ne sais pas si vous avez compris ce que vous propose Bernard Créta, mais moi qui ai vu son exposition, eh bien, je peux vous dire qu'en quelques mots, pour essayer de simplifier, eh bien, Bernard Créta avait choisi comme méthode anthropologique de donner aux objets qui sont donc un ensemble de trésors que possèdent en général les musées d'ethnographie, Donc, il a choisi de donner aux objets la possibilité de parler, de lui faire parler, de leur faire parler les mots des utilisateurs et donc, par là, de rendre vivant le passé, mais non pas par nostalgie, mais simplement pour retrouver la force, la vie de ceux qui les ont utilisés. Or, dit-il, ma méthode n'intéresse plus personne. Alors ça, je ne sais pas, je lui laisse ses paroles. Hein. C'est aussi peut-être à vous de savoir si vous trouvez qu'une telle méthode n'intéresse personne. Enfin, c'est ce qu'il défend dans son exposition. Et il montre comment, petit à petit, on a complètement vidé de sens ces objets du passé et la vie au passé, en s'en emparant que pour faire un mythe magnifique, quitte à le transformer en Disney World, comme il dit, dans les Alpes suisses. Et ce qu'il affirme, à qui veut bien l'entendre à gauche et à droite, parce que c'est temps, on l'entend beaucoup parler, eh bien, c'est que mieux vaudrait raser les Alpes pour enfin faire cesser ce mythe épouvantable qui paralyse la Suisse et l'empêche d'accéder à la modernité, y compris les habitants des Alpes. Alors, bon, ma foi, je crois que la meilleure façon de vous faire votre avis est d'aller voir cette exposition. Elle est effectivement très personnelle. Chaque salle est précédée d'un texte où Bernard Créta écrit à la première personne. Il y a une salle où il y a 7 textes écrits par lui-même, où il s'adresse aux habitants de ces vallées, puisque Bernard Créta est valaisan d'origine. Il a fait beaucoup de recherches ethnographiques dans le Valais, et donc il s'adresse aux gens qu'il a rencontrés dans sa vallée pour justement remettre en cause et énoncer les problèmes qu'il avait eus de contradiction entre la démarche qu'il faisait à l'intention vers ses habitants et puisque finalement on en a soi-disant réutilisé. Mais, et pourquoi ce n'est pas Bernard Créta que nous avions l'intention d'inviter dans notre émission, mais c'est Anne Grossenbacher. Alors pourquoi? Eh bien là encore, je vous dis ce qu'écrit Bernard Créta. Une exposition n'est jamais la seule mise en œuvre d'une idée ou d'un concept. Elle est aussi spectacle. Et pour cette raison, j'ai demandé à une graphiste de talent, Anne Grossenbacher, de bien vouloir réaliser sa première exposition avec le mandat suivant, assurer une mise en scène de nos vieux objets qui nous ouvre à tous la joie et l'étonnement d'un regard neuf sur ce patrimoine fatigué. Alors, je crois que pour apprécier ce que Anne Grossenbacher va nous expliquer de sa mise en espace de ces vieux objets, eh bien, il faudrait que, le mieux, ce serait que vous alliez voir l'exposition et quand nous aurons refixé un rendez-vous avec Anne, eh bien, vous saurez encore mieux de quoi elle parle. Alors, j'espère que, après Evelyne Hasler la semaine prochaine, eh bien, nous recevrons Anne Grossenbacher, cette fois-ci sans mauvaise compréhension.
Con este tango que es burlón y compadrito, si a todos sala la misión de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que la esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas. Luna en los charcos, canyén en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer. Buscarte. Tango querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailando y oigo el rezongo de mi pasado. Ay, ro, 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 ro. Ay, ro, ro, ro. Ay, ra, 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 ra. Carancafumpas hizo al mar con tu bandera y el perno mezcló París con Puente Alsina. Fuiste compadre del gavión y de la mina y hasta comadre del bacán y la pebeta. Por vos, Yuseta, Canarreo y Milladura se hicieron voces al nacer con tu destino. Mi camisa de falda, querosén, tajo y cuchillo, que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón. Misa de falda, querosén, tajo y cuchillo, que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón.
C'est Aide Alba qui chante ces magnifiques tangos argentins et je ne résiste pas au plaisir de vous en faire décrire un deuxième, découvrir un deuxième. Aide Alba.
Malena, canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tienen frío del último encuentro tu canción. Se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, siento más buena que yo. Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón. Tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro el callejón. Cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción, Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tu tango, Malena, te siento más buena que yo. Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de
Aide Alba au bandoneon et au tango argentin. Enfin, c'est elle qui a choisi cette série magnifique de tango argentin. Alors, je vous le disais, la semaine prochaine, et ça nous en sommes absolument sûres et certaines, Les Inédites et Romu Ménage ont invité Evelyne Hasler, écrivaine saint-galloise, à venir en direct dans notre émission de Romu Ménage. Et c'est un grand plaisir de la voir et je crois qu'elle aussi se réjouit beaucoup de partager un peu avec la Suisse romande ses romans, les livres qu'elle a écrits. Je vous annonce d'ores et déjà que le lendemain, le mercredi 2 décembre, donc elle sera à notre micro le mercredi 1er décembre de 17h à 18h30 en direct. Et le jeudi 2 décembre, eh bien, elle sera en direct, mais cette fois-ci à la librairie des femmes L'Inédite à Genève, rue du Cardinal Mermillot, pour signer son dernier livre qui a pour titre « La femme aux ailes de cire », qui raconte l'histoire d'Emily Kemping-Spyri. Alors, Evelyne Hasler a écrit déjà plusieurs livres. « Les femmes aux ailes de cire » est son quatrième roman historique. Elle s'attache toujours dans ses livres au destin de gens proscrits, souvent des femmes. Et elle a eu énormément de succès avec ses livres, auprès des lecteurs de langue allemande bien sûr, mais aussi auprès des lecteurs romans francophones, puisque la plupart de ses livres ont été traduits en français. Ce dernier livre a été traduit par Colette Kowalski. Alors, de quoi s'agit-il? Je vous résume rapidement l'histoire d'Emily Kemping-Spyri. Donc, juste précisons peut-être une chose, je vous le dirai plus en détail en vous donnant quelques précisions un petit peu sur ce que fait Evelyne Hasler. Mais on peut juste dire que les romans qu'elle écrit sont souvent basés sur des réalités historiques, véridiques, qui se sont produites. Et à l'aide de nombreuses recherches, Evelyne Hasler réunit des informations qu'elle ensuite utilise, réécrit à sa façon, en y ajoutant parfois un aspect un peu romanesque. Mais le fond de l'histoire est vraiment très important comme élément historique de base. Alors, si je prends ce qu'en disait Isabelle Guizan dans un article qu'elle avait écrit à propos d'Evelyne Hasler dans Le Nouveau Quotidien en février 1992, eh bien, elle trouve que, Isabelle Guizan, qu'Evelyne Hasler, vraiment, de livre en livre, maîtrise complètement l'art du roman historique. Et ça, je crois que c'est vraiment l'aspect significatif du travail d'Evelyne Hasler. Alors, il est si rare le plaisir de s'immerger sensuellement dans une vie, de partager au fil des pages et dans le sillage d'un destin, avec parfois une rupture, un silence de l'histoire, un retour en arrière, pour mieux comprendre. Et ça, avec Evelyne Hasler, l'art du roman historique se fait très subtil, parfumé, frémissant, et l'allemand devient langue légère pour ceux qui savent la comprendre. Par chance, elle est aussi traduite en français. Alors la romancière alémanique nous ouvre la porte des vies dont elle s'est imprégnée des années durant, en faisant de nombreuses recherches. Elle nous donne à sentir la tradition patriarcale, empêtrée dans de lourds rideaux bourgeois, souvent zurichois, le mal de mer sur un bateau chargé des migrants qui tanguent vers le Brésil. Ça, c'était un livre dont nous évoquerons, je vous donne le titre tout de suite, qui s'appelait « Ibikaba, le paradis dans la tête ». Et puis, elle nous parle aussi de l'amour qui fait mal et l'injustice qui torture dans le Clarisse du XVIIIe et XIXe siècle. Et ça, c'était Anna Guldin, dernière sorcière. De roman en roman, Evelyne Hasler nous dit, avec une précision historique troublante, le destin de courageux solitaires, des femmes bien souvent, qui ont lutté, mais qui ont souvent échoué aussi et qui ont creusé la trace, petit à petit permettant aux femmes d'aujourd'hui de vivre autrement. Dernier né de tous ces succès, eh bien, c'est La femme aux ailes de cire, dont nous allons parler la semaine prochaine, et qui, en Suisse allemande, a vraiment été aux premières places, puisque elle, au moment de sa parution, eh bien, 60 000 exemplaires étaient vendus en 6 mois. Alors, il semblerait que ce soit surtout les femmes qui dévorent l'histoire d'Emily Kemping-Spyri, qui était la première juriste de langue allemande en Suisse, mais qui, épuisée d'avoir lutté toute sa vie pour avoir le droit à la fois, non seulement premièrement d'avoir étudié, mais ensuite de pratiquer, elle ne pourra pas le faire en Suisse, elle devra s'exiler aux États-Unis, et ensuite de vivre à la fois sa vie de femme, de mère, critiquée par tous ceux qui sont autour d'elle. Elle va finalement mourir au début du XXe siècle dans une clinique psychiatrique, rejetée par tout le monde, juste avant que le canton de Zurich n'autorise enfin les femmes à exercer le métier d'avocate. J'ai résumé là vraiment très 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 brièvement, je vous en dirai quelques mots de plus après. Parlons peut-être encore des autres livres qu'a écrit Evelyne Hasler. Un livre qui a eu un succès tout aussi retentissant, mais qui a été écrit 10 ans plus tôt, c'était Anna Guldin, Dernière sorcière, qui est aussi un roman historique et qui a été vendu à 110 000 exemplaires. Alors peut-être vous vous en souvenez, quelle est l'histoire d'Anna Guldin, Dernière sorcière, parce que nous en avons parlé à cette antenne et nous en avons parlé à l'occasion de la mise en image, la mise au cinéma de ce roman d'Evelyne Hasler par Gertrude Pinkus, une réalisatrice zurichoise elle aussi. Il y a une année, Gertrude Pinkus, que nous recevions à notre antenne, dans notre antenne aussi, et qui nous racontait comment elle, pourquoi elle avait été tellement intéressée par ce roman d'Evelyne Hasler et comment elle l'avait retranscrit à sa façon au cinéma. Alors, quelle était l'histoire de ce film et de ce livre? Eh bien, c'est l'histoire de la dernière femme qui a été assassinée officiellement pour sorcellerie à Glaris au XVIIIe siècle. Et là encore,